Le Forum de l'aménagement durable en partenariat avec l'UNAM sur Radio Imo et Radio Territoria.
Toujours avec vous sur Radio Imo et sur Radio Territoria pour le Forum de l'aménagement durable en partenariat avec l'UNAM. Et j'ai le plaisir de recevoir pour cette table ronde sur le foncier invisible une députée, Marjolaine Meignier-Millefer. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour, vous êtes députée de la 10e circonscription de l'Isère et vous êtes également présidente de l'alliance HQE-GBC, dont vous nous parlerez brièvement tout à l'heure. J'ai également la chance d'être avec Hélène Peskine, bonjour, secrétaire permanente du PUCA. Alors c'est le plan urbanisme construction architecture au ministère de la transition écologique. Et j'ai la chance aussi d'être avec François Riossec, encore le président de l'UNAM. Peut-être un petit mot d'introduction, François ?
Oui, bien, tout d'abord, pour vous remercier de participer à cette table ronde. La table ronde précédente a montré la continuité dans le temps de l'habitat humain et de la complexité que cet habitat que nous... intègre et je trouve intéressant qu'au présent on puisse intégrer la multiplicité des fonctions. Donc vous savez que l'aménagement c'est toujours une complexité des programmes, c'est-à-dire les différents types d'habitats qui correspondent aux différents types de ménages, aux différents types de générations. On intègre toujours du logement social dans nos opérations notamment. Les équipements publics, écoles, commerces, etc. Et puis de plus en plus, et sous l'instigation de la loi climat-résilience, nous sommes amenés à intégrer des fonctions des sols, hein, c'est-à-dire la résilience climatique, de la production agricole à travers l'agriculture urbaine notamment, la biodiversité dans nos espaces verts et les espaces de pleine terre, et puis toutes nos questions environnementales actuelles qui bouleversent notre champ présent, qui sont les énergies, les mobilités et leurs impacts sur nos modes de vie. Et on a vu à travers le Covid combien les citoyens se sont réappropriés une manière de vivre un petit peu différente et ont réadressé en quelque sorte les territoires. Et ça a permis notamment à des villes moyennes de revenir sur le devant de la scène alors que les métropoles avaient un petit peu accaparé le devant de la scène. Voilà. Donc on est dans cette époque extrêmement riche en termes de débats et nous, aménageurs, nous intégrons cette complexité en essayant d'adresser des projets de façon concrète et très complexe avec les élus locaux dans cette diversité locale. Voilà.
Alors, Madame la députée, peut-être un petit mot pour commencer, avant de parler du CNR, hein, un petit mot sur l'alliance HQE-GBC que vous présidez.
Bah absolument. Bien écoutez, l'alliance HQE-GBC, c'est finalement une vieille dame, une association qui a 25 ans d'âge dans l'utilité publique autour de l'accompagnement justement de la transition environnementale du secteur des bâtiments, de l'aménagement... et des infrastructures. Donc ça fait 25 ans que finalement l'écosystème lui-même se casse la tête pour savoir comment il va engager sa propre transition, comment il va pouvoir aller plus loin. Et notamment au sein de l'association, voilà, il y a eu toutes sortes d'expérimentations très concrètes, scientifiques, parce que c'est un peu la signature HQE d'aller vraiment dans le détail des choses et de s'appuyer sur du réel et du mesuré pour effectivement construire les politiques qui viennent, les accompagner, voilà. Et puis donner aussi finalement aux gens les bonnes pratiques, les diffuser très largement et démocratiser cette approche. Voilà, toujours le coup d'après et faire en sorte que le maximum de gens puissent s'y engager aussi largement que possible.
Et donc là, nous allons aborder le volet logement du CNR, donc le Conseil national de la refondation, puisque vous avez co-animé le troisième groupe de travail avec Christine Lecomte. Et vous avez remis donc vos propositions au ministre du Logement, qui était là hier, en fait, sur ce plateau, Olivier Klein, qui est venu nous voir. Voilà. Non, alors on n'est pas rentré dans le détail, mais voilà. Alors votre groupe de travail s'intitulait « Faire du logement l'avant-garde de la transition écologique ». C'est vrai que j'ai envie de dire qu'il y a beaucoup de travail.
Alors, enfin, à la fois, il y a du travail et en même temps, il y a beaucoup de passion. Donc, l'un équivalent à l'autre, on est pas mal. En fait, effectivement, dans ce CNR Logement, il y avait vraiment trois enjeux, trois pôles. Et ces trois pôles, c'était de se dire d'abord qu'il fallait qu'on remette les humains au centre de cet écosystème du logement, en se disant que quand même la mission première, c'est de faire en sorte que le logement, l'habitat, ça reste un projet possible pour tous, enfin, un projet vraiment démocratique et sur lequel on peut bâtir sa vie, et donc avec une approche quand même aussi sociale de l'habitat. En deuxième volet, il y avait cette question de réconcilier les gens avec l'acte de construire. Alors évidemment, plus construire comme avant, mais construire avec les préoccupations d'aujourd'hui et le faire avec effectivement tout ce qui a été dit par François Yersec sur toutes les approches de prise en compte du monde dans lequel on vit aujourd'hui. Et néanmoins, du coup, de réconcilier les gens, parce qu'à un moment donné, effectivement, le message qu'on a entendu autour du zéro artificialisation net pour 2050, c'est qu'on a l'impression que le zéro artificialisation net, il s'est mis en route hier et que c'est déjà fini, en fait. On se dit, mais il y a un...
Non, mais c'est vrai que le gouvernement a voulu marquer le coup avec la loi climat résilience et a quand même rabâché ce dispositif à de nombreuses fois.
Et oui, et il a bien raison de le faire, puisque dans un sens, 2050, c'est une préoccupation qu'on doit tous avoir en ligne de mire. 2050, c'est du zéro énergie, zéro carbone dans les secteurs des bâtiments. C'est une transformation massive des infrastructures de transport, parce que là aussi, il faut aller sur du zéro carbone. Il faut aller sur du zéro artificialisation net à terme, en disant que chaque fois qu'on artificialisera d'un côté, il faudra rendre à la nature de l'autre pour garder un équilibre des écosystèmes. Donc, bien sûr que c'est important qu'on ait tous en feuille de route et en ligne de mire ces objectifs 2050. La problématique, c'est justement qu'on ne les avait peut-être pas suffisamment en tête, ces objectifs. Et on a cranté avec des objectifs intermédiaires. Les objectifs intermédiaires, c'est sur la rénovation énergétique des bâtiments, de commencer à se poser la question comment on va mettre des crans petit à petit d'obligations. On en a beaucoup parlé, mais aujourd'hui, c'est le message autour de les difficultés qu'on rencontre sur, par exemple, la rénovation des passoires thermiques qui sont louées. Il faut savoir que c'est une toute petite partie de l'écosystème parce qu'il faudra demain travailler toutes les passoires thermiques et il faudra surtout que tous les logements, toutes catégories confondues, aillent à un niveau A ou B en 2050. Donc si on ne commence pas par quelque part, on n'y arrivera jamais. Donc là, aujourd'hui, on est dans ce moment un peu particulier où à la fois on nous dit « mais n'en jetez plus, arrêtez, ça va trop vite, on ne sait plus faire ». Et en même temps, quand on discute avec le rétro-planning et les acteurs des gens qui nous disent « vous voyez le monde qui arrive là en 2050, c'est juste à côté, c'est juste devant, et si on ne commence pas tout de suite, on va être tous très en difficulté en 2050 ». Donc en fait, d'un côté, et c'était tout le but du CNR sur ce volet, donc faire du logement l'avant-garde de la transition écologique, en fait, par nature, le logement l'est déjà, l'avant-garde de la transition écologique. C'est un endroit où tout se croise, les sujets d'aménagement, les sujets d'énergie, les sujets de carbone, les questions aussi de justice sociale, enfin, tout se croise dans cet écosystème, donc il est déjà à l'avant-garde, qu'il le veuille ou non, il y est déjà, c'est l'avant-poste même. Et du coup, dans le même temps, il faut que cet écosystème il puisse avancer et faire sa transition. Pour ça, on planifie, on met des jalons et on y va progressivement.
Alors justement, c'est vrai que le calendrier du fameux DPE que vous avez évoqué fait un peu rager les professionnels de l'immobilier parce qu'il faut le dire, il tombe mal. On est en pleine crise économique.
Pardon, mais le DPE, et je sais que ce n'est pas facile, donc je nie pas ce qui n'est pas facile. Mais entre nous, moi je suis arrivée députée en 2017, le DPE, on en parlait en 2017.
Mais donc, les professionnels n'étaient pas au courant apparemment. Parce qu'à les écouter, en fait, ils l'ont appris en 2021. Et il faut constater que ça tombe quand même mal. On a le rapport de la Fondation Abbé Pierre sur le mal-logement. C'est quand même 330 000 personnes qui sont sans domicile fixe. C'est plus 130% depuis 10 ans. Donc il y a un véritable problème structurel. Là, c'est même plus une crise du logement. C'est un problème.
Le DPE, les écosystèmes du secteur ne le découvrent pas. C'est pas vrai. Ceux qui vous le disent, ils vous disent pas la vérité. C'est pas vrai. Par contre, ce qui est vrai, c'est que le DPE, il a évolué. Il a évolué pour intégrer les questions du carbone, tout comme d'ailleurs...
C'est que depuis 2021.
Voilà, depuis la RE 2020. Donc il y a une transformation du DPE. Ça ne veut pas dire qu'on ne savait pas faire. Ça ne veut pas dire qu'on ne connaissait pas le DPE avant. Ça veut dire qu'on a fait en sorte d'harmoniser les outils pour que le DPE d'avant et le monde qui vient, celui qui intègre le carbone, parlent le même langage.
Oui, mais cette interdiction de louer les passoires thermiques progressivement jusqu'aux étiquettes, vous l'avez dit, B,
c'est... Là encore, c'est voté depuis 2019. C'est 2019, l'interdiction de mise en location des passoires thermiques, c'est 2019. que ça a été décidé et discuté au Parlement. Donc, je veux bien encore une fois qu'on dise qu'on est surpris et qu'on le découvre, mais il y a quand même un certain temps, et je suis d'accord, on en parlait ce matin avec les acteurs de l'immobilier.
Et il y a eu un problème de communication alors, en tout cas.
Mais en fait, il y a un problème entre, j'ai envie de dire, le moment où on aura toujours un problème tant qu'on ne partage pas l'objectif 2050. On aura toujours l'impression qu'on découvre les trucs si on n'arrive pas à endosser la problématique qui est devant nous, et qu'on ne fait pas nous-mêmes le rétro-planning dans notre tête. Si on n'est pas capable de se dire qu'effectivement, on endosse... C'est pour ça que j'ai commencé en vous parlant de 2050. C'est que si vous regardez bien ce qui se passe à 2050, vous pouvez tous savoir ce qui va se passer de manière intermédiaire entre les deux. Et l'objectif aujourd'hui, c'est de s'endosser cette responsabilité de manière collective pour qu'on puisse y aller de manière volontariste. Pour ne pas subir le monde, il faut être acteur de ce monde-là.
Après, je suis entièrement d'accord avec vous et je pense qu'ici, il n'y a plus du tout de climato-sceptique avec l'été qu'on a passé.
Mais je le sais.
On a des choses à faire. Le problème, c'est que vous comprenez que les Français, certains ne savent même pas ce qu'ils vont faire à la fin du mois.
Mais je sais.
Avec le pouvoir d'achat. Donc, voir 2050, c'est compliqué. Et dire à des Français qu'on va sortir du parc locatif des milliers de logements, c'est très compliqué, en fait. Et ça tombe assez mal, en fait.
On dit que les bonnes politiques réfléchissent à la prochaine élection et que les meilleures politiques pensent à la prochaine génération. Notre responsabilité à tous, et vraiment ce que je constate dans tous les acteurs, chez tous les acteurs, dans tous les écosystèmes, c'est comme vous le dites, que tout le monde est engagé au résultat. Aujourd'hui, la difficulté qu'on a, c'est de partager les intermédiaires de l'objectif. Et je nie pas du tout. Quand vous me dites, les gens le découvrent. Mais je suis d'accord et j'en suis autant frustrée qu'eux. Parce que le sujet, il est sur la table depuis un moment. Et c'est pas normal qu'aujourd'hui, on se retrouve dans un ressenti d'autant d'impréparation. Alors qu'en réalité, c'est des sujets qui sont là depuis longtemps. Vraiment, simplement, moi, je veux rassurer les gens en disant qu'on sait faire, on saura faire. Et on a aujourd'hui une créativité vraiment dans nos écosystèmes, chez les acteurs, etc., qui font que oui, on découvre une problématique quand on la met vraiment en œuvre. Et quand on la met vraiment en œuvre, eh ben, on la lève ensuite, la problématique. Et oui, ça peut être un peu cas, mais vraiment, je ne suis pas inquiète. Tout ça va se rationaliser, suivre son cours. Et vraiment, le secteur immobilier a vécu tellement de moments variés et divers, et le secteur immobilier, elle a toujours réussi à rebondir. Donc, ce sera encore le cas.
Je peux dire un mot ?
Oui. Après, je libère Madame la députée, parce qu'elle doit être sur une autre table ronde.
Juste un mot, c'était pour dire qu'on a parfois l'impression qu'on a une transcription d'objectifs politiques légitimes et nécessaires par une traduction très technocratique. Et c'est le problème des DPE, ce qui ne concerne pas notre profession, hein, donc on est extérieur à ce débat. Mais si vous voulez, c'est cette transcription très techno qui pose des problèmes dans l'application, alors qu'on partage les objectifs. Voilà. Donc je pense qu'il y aurait une interconnexion plus fine à avoir entre les politiques, les administrations qui sont en charge de la mise en œuvre des politiques, et les milieux professionnels qui ne sont pas toujours concertés au niveau de ce qu'ils pourraient apporter. Voilà. Mais c'est juste un point
non, mais moi,
externe
je partage,
sur cette question.
Je partage, mais d'une certaine façon, on n'est jamais autant engagé que quand on est directement concerné par le sujet. Et donc, souvent, on se met à discuter et à concerter quand on est en face de la difficulté. C'est vrai que là, vous disiez climat résilience, Lausanne, vous nous avez mis un pavé dans la mare et ça fait une sacrée vague. Ben oui, mais d'une certaine façon, tant mieux, parce que grâce à cette vague-là, aujourd'hui, on est tous en train de se demander comment on va faire face et comment on va répondre à ces enjeux, que sans ça, on ne serait toujours pas en train d'en parler. Donc là, aujourd'hui, oui, c'est clair, les gens se disent « Ouh là là, ça vient et ça fait peur ».
Ben oui, plus le choix, en fait. C'est vrai qu'on est obligé de passer par là pour,
c'est ça.
Pour agir.
Mais en même temps, plus le choix, moi je le dis, en fait, il ne faut pas considérer qu'on est juste en défensif. On habite dans ce monde-là. Il
n'y
en a pas d'autre. C'est celui dans lequel on est et c'est les enjeux qui sont devant nous. Et en fait, il vaut mieux choisir de les endosser et d'aller les relever et de se relever les manches et d'y aller que de penser qu'on va pouvoir les esquiver. Ça n'est pas possible. On n'esquivera pas le monde qui vient. Donc du coup, vraiment, avec beaucoup d'allant, beaucoup d'énergie, je suis d'accord sur le fait qu'il faut continuer à discuter, parce qu'en la réalité, c'est qu'on ne sait jamais tout bien comment ça va se passer. Et qui travaille dans le bâtiment sait que c'est vrai. On peut tout bien planifier avant. Quand on arrive sur le chantier, il y a toujours des trucs qu'on n'avait pas prévus. Ouais. Et bien ça, c'est la même chose. On est sur le chantier, on a des trucs qu'on n'avait pas prévus. Mais néanmoins, on va y aller avec bonheur et bonne humeur et on va quand même y arriver.
Merci infiniment, madame la députée. On vous libère parce qu'il est, 15h10 passé.
Désolée de me faufiler.
Avec plaisir. Merci d'être venue, en tout cas. On va continuer avec vous, Hélène Peskine. Alors, on va parler du foncier invisible. Vous allez nous expliquer ce que c'est, parce que c'est vrai que ce terme est assez étrange. Et puis, on va parler aussi du programme que vous menez, un programme d'expérimentation que vous allez nous expliquer, en fait, qui appuie le programme Action Cœur de Ville 2, dont on a parlé ce matin dans une table ronde, donc qui vise à redynamiser en fait 234 communes, villes moyennes, en France. Alors, pouvez-vous nous parler de ce programme donc, qui vient appuyer le programme Action Cœur de Ville 2?
Bien sûr, bonjour à tous. Excusez-moi, moi j'ai une mauvaise voix aujourd'hui, mais je vais essayer de me faire entendre quand même. Effectivement, nous on a mis en valeur, alors je dis nous, je représente une espèce de think tank du ministère de la Transition écologique qui mobilise de la recherche et de l'expérimentation pour travailler sur les sujets innovants qui touchent à la ville et à la construction. Et donc la proposition qu'on a faite il y a 2 ans et demi maintenant au programme Action Cœur de Ville, c'est d'aider un certain nombre des villes du programme à anticiper l'appel sur le zéro artificialisation net dans un programme d'expérimentation qui s'appelle les territoires pilotes de sobriété foncière. Sobriété foncière, voilà. Et donc, ça touche 7 agglomérations. Ce n'est pas limité à la ville-centre, parce qu'en fait, la ville-centre, de fait, est assez contrainte dans son périmètre géographique. Donc, elle est déjà un peu soumise à cette question de la sobriété foncière. Le sujet pour nous a été vraiment valable à l'échelle intercommunale, où il y a parfois aussi des concurrences foncières entre le centre et la périphérie, les centres-bourgs et la ville historique et sa première couronne. Et donc, la logique de ce programme, c'était... J'aime bien utiliser ce terme de Bruno Latour, faire atterrir le zéro artificialisation net dans des conditions réelles de marché, des conditions réelles de gouvernance politique territoriale.
En fait, c'est le rendre concret, au final.
Voilà. Et puis, de regarder dans le cadre de cette application, accompagnée, facilitée par des outils et des consultants spécialisés, finalement, où sont les freins et leviers à la mise en œuvre réelle de cet objectif. Comme vous le disiez, je crois que plus personne ne méconnaît l'enjeu, ne manque de comprendre pourquoi il faudrait limiter l'étalement urbain et préserver les espaces naturels, agricoles et forestiers. Mais une fois qu'on est dans un terrain donné, sur une ville qui n'a pas forcément une démographie très dynamique, c'est le cas d'une partie, une grande partie même de ces villes moyennes, dans un contexte immobilier où depuis 20 ans, tout le développement, même quand la population n'augmente pas, s'est fait en périphérie, au détriment d'ailleurs des centres anciens bien souvent, on voit bien que le sujet, il n'est pas juste de changer de braquet du jour au lendemain. Il y a un vrai problème de changement de modèle économique, de changement de paradigme, de réponses différentes aux aspirations des habitants, qui sont aussi des électeurs. Et donc, on est rentré un peu dans cette logique-là, de dire finalement, on se met, nous, aux côtés des élus et de leurs opérateurs locaux, pour comprendre à quelles conditions on peut faire la ville sur la ville dans des territoires qui ne l'ont pas faite, en tout cas depuis 20 ans, ou très peu. Et donc on a lancé cette idée de repérer le foncier invisible, donc dans une logique de développement. Les collectivités avec lesquelles on travaille n'ont pas renoncé au développement, on en parlait, hein. Il ne s'agit pas de sanctuariser un terrain urbain existant. Il s'agit bien de penser différemment son programme de mandat, en évitant de s'étaler, en s'étalant le moins possible. Et donc d'où l'idée d'aller chercher, là où on n'a pas cherché jusqu'à maintenant, des opportunités foncières et immobilières, le foncier invisible. Et en fait on se rend compte qu'il y en a beaucoup.
Par exemple, vous avez quelques exemples de foncier invisible?
Alors, on mobilise en fait 3 leviers. Le premier, c'est se sortir de la vacance des bâtiments vacants. Là, on parle souvent des logements vacants dans les centres anciens. Il y en a beaucoup dans Civil Action Cœur de Ville. Bien souvent, même quand la population a diminué, les logements ont continué de se construire en périphérie. Donc, ils ont créé de la vacance dans les centres anciens. Comment on remobilise des logements vacants qui aujourd'hui sont jugés peu confortables, bien souvent sombre, souvent même très chaud en été à cause du réchauffement climatique. Le premier levier qu'on mobilise, c'est la renaturation. C'est redonner de l'envie d'habiter en centre-ville. Et donc, c'est, vous le disiez, le foncier invisible, ça ne sert pas qu'à construire. Ça sert aussi éventuellement à aider.
Donc, jouer sur l'attractivité, en fait.
Pour remettre sur le marché des logements ou des bâtiments. Il n'y a pas que des logements qui sont vacants aujourd'hui. De la même manière, et c'est le cas déjà dans un certain nombre de ces villes, la transformation de bâtiments existants, notamment industriels, qui représente souvent une mémoire importante pour les collectivités locales dans des territoires qui ont été des territoires d'industrie, par exemple la manufacture des tabacs ou l'ancienne briqueterie, voilà, ou la tannerie, ou même le quartier des tanneurs, ça révèle comme une identité forte du territoire. Donc on met en avant que peut-être plutôt que de standardiser de l'aménagement, il peut être très porteur d'aller sur ces terrains-là, à la fois pour valoriser le bâtiment existant quand il a caractère patrimonial, mais aussi pour transformer la parcelle sur laquelle il est inscrit et penser plutôt projet urbain que reprise finalement du bâtiment seul. J'ai un exemple très concret à Montbrison, une ville à Action Cœur de Ville, qui disposait d'une friche, la friche de l'usine GG. Alors pour les plus âgés, c'est des poupées GG, c'est l'usine de jouets qui était assez connue dans les années 70-80. Friche depuis 40 ans. Depuis des années, le maire pensait trouver un repreneur unique. En fait, c'était un site industriel, il voulait un repreneur unique. Et en fait, il disposait d'un foncier extrêmement précieux sur lequel, grâce à une opération qu'on appelait Réinventons notre cœur de ville, pour aller chercher des investisseurs et des groupements d'investisseurs, on a complètement remembré le foncier, gardé le bâtiment historique et transformé en partie en logement individuel, en lotissement de notre ville et en logement collectif, le reste du foncier. Et même la ville a repris une partie de ce foncier pour elle, pour un projet d'équipement public. Donc il y a aussi cette logique de un peu de sortir de la boîte, de ne pas penser tellement foncier unique, repreneur unique.
Il y a vraiment une mixité en fait.
De penser urbain, de penser projet urbain. Et de faire de la couture, et c'était le cas de ce projet de Montbrison qui était à la limite d'une zone pavillonnaire. Ça a fait la couture avec un espace qui était moins dense, et donc ça reconstruit la ville sur la ville sans créer de rupture trop forte. Transformation. Et les deux autres leviers, je tiens à les mentionner aussi, qu'on mobilise avec ces collectivités, en allant chercher des exemples très concrets sur leur terrain, c'est la mixité d'usage. On en parlait un peu à l'instant. Un même bâtiment pour recevoir, alors, notamment pour les équipements, pour recevoir un établissement scolaire ou un centre de loisirs, par exemple, mais aussi une maison des associations, aussi une PMI, et aussi peut-être un café associatif, une petite salle des fêtes. Et donc l'idée d'avoir un bâtiment qui vit toute l'année et qui fait centralité plutôt que de disperser des équipements qui eux-mêmes seront vides une grande partie du temps.
Donc par exemple du lundi au vendredi l'école, le week-end l'association.
Donc quand on dit foncier invisible, en fait c'est plus que foncier, c'est aussi l'immobilier sous-occupé, c'est aussi le sol désaffecté dans lequel on peut retrouver de la nature et donc des usages plus écologiques.
En fait c'est une optimisation des usages.
Tout à fait. Et en considérant un peu le triptyque qu'on utilise pour la préservation de la biodiversité, éviter, réduire, compenser, regardons d'abord sur quoi on est assis, c'est de ce dont on dispose dans l'espace urbain d'aujourd'hui. L'espace urbain, ce n'est pas que la ville-centre, c'est aussi les centres-bourgs, etc. Et regardons où, finalement, on peut améliorer les usages sans perturber outre mesure la vie du quartier, en favorisant la construction ou la réhabilitation de bâtiments existants. Voilà un peu le concept.
Et alors, il y a un autre levier qui plaît moins aux maires, qui effraie les maires, c'est la densification. Alors ça, qu'est-ce que c'est?
Alors, on l'utilise quand même, je disais, à quatre leviers. On ne met pas en premier la densification, mais néanmoins, on s'en sert aussi. Pas dans l'idée de bétonner des espaces qui ne le seraient pas aujourd'hui, plutôt dans l'idée d'améliorer les aménités des quartiers, notamment des quartiers résidentiels, par exemple, ou des quartiers d'activité industrielle qui auraient en partie périclité ou sur lesquels il y aurait des friches.
C'est réaménager, en fait.
Voilà, et penser finalement d'autres usages permet d'améliorer d'abord la qualité urbaine, parfois aussi de végétaliser, de redonner des aménités, de la qualité d'usage au sens y compris des mobilités, par exemple, éviter que les territoires soient trop dédiés à la voiture en donnant des échelles de déplacement qui sont plutôt celles du piéton ou du vélo. Et tout ça, c'est une densification douce, d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'on ne va pas transformer un quartier pavillonnaire en un écoquartier ou un grand ensemble. On n'est pas dans ces logiques très un peu sectaires de type de quartier, mais dans l'idée que sur une ancienne grange, et c'est le cas dans un de nos territoires pilotes, une ancienne grange en centre-bourg, qui a finalement un assez grand pènement avec une partie en friche, une partie bâtiment d'habitation qui peut être réhabilité en logement collectif, on a de quoi construire 3 ou 4 maisons qui seront des maisons de centre-bourg, adaptés au confort moderne et qui n'ont pas pour autant détruit la qualité paysagère finalement du centre-bourg. Et donc, pour moi, une des logiques de cette question de la densification douce, c'est aussi d'accepter une nouvelle manière de négocier l'aménagement et l'urbanisme avec des acteurs nouveaux, y compris des non-spécialistes de l'aménagement. En fait, historiquement, les urbanistes, ils connaissent les aménageurs, ils connaissent les lotisseurs, voilà, ils connaissent les architectes, les établissements publics, les SEM. Mais on est dans un monde très techno ou très technique qui ne s'adresse pas à des citoyens lambda qui peuvent être propriétaires d'un foncier ou des chefs d'entreprise qui peuvent être propriétaires de leur tenement économique parce que c'est des gens qui sont trop éloignés finalement de leur vision de l'aménagement et peut-être du modèle économique disons qui se font de l'aménagement. Donc on a plutôt tendance, même si on n'en est pas dans l'étalement, à faire table rase et à décider de, voilà, de remettre le terrain nu sur une surface qui permet une rentabilité et de ne pas se poser trop la question des riverains. Là, avec le zéro artificialisation net, on va être obligé de négocier avec les gens qui sont sur site et des bâtiments qui sont sur site, dans l'idée aussi d'être sobre en matière, donc de ne pas démolir plus que de raison. Et donc, il faudra inventer différemment ces modes de négociation.
Il faudra faire de la pédagogie, au final.
De la pédagogie et du projet. Et peut-être mon dernier mot, ce sera de dire que ce sur quoi on travaille avec nos 7 pilotes et les consultants qu'on a mobilisés à leur côté, c'est les représentations. C'est-à-dire qu'on a besoin de dessiner la ville de demain, désirable, mais qui réponde quand même à ces enjeux de sobriété foncière. Et donc, il faut tester des solutions. On en a testé sur des centres-bourgs, on en a testé sur des quartiers pavillonnaires, avec des sites démonstrateurs très précis. On regarde comment s'équilibrent les modèles économiques, si on a les outils éventuellement financiers, type fonds friche pour compenser les déficits quand il y en a, qui sont les propriétaires en face avec lesquels il faut travailler, est-ce qu'il faut acheter, pas acheter, est-ce que la collectivité a intérêt à préempter ou non, parce que ça coûte, surtout dans des villes qui ne sont pas très riches. Et donc, voilà, on rentre dans un nouveau processus qui part du projet pour rassurer sur la faisabilité et qui finalement commence par le projet pour arriver à l'échelle de la planification. Donc pour revenir à ce que je disais initialement sur le foncier invisible, souvent à cause des PLU, des SCOT, on pense le foncier comme les grands tenements qui ont été repérés depuis deux décennies dans les documents d'urbanisme et très peu par le projet. Et cette logique du zéro artificialisation net, elle va certainement obliger beaucoup à passer par le projet pour repenser la planification.
Voilà. Bon, pour finir, juste l'expérimentation se termine dans 6 mois, hein, c'est ça, sur les 7 sites que vous avez choisis et donc qui vont permettre, en fait c'est un peu une vitrine, qui vont permettre de développer d'autres territoires.
Oui, alors tout à fait, nous on a accompagné depuis 2020 7 agglomérations, je vais essayer de les citer toutes, Épernay en Champagne, Dreux, Poitiers, Sète, Draguignan, Maubeuge et Louviers, avec l'intérêt qu'elles sont dans des régions différentes et dans des contextes fonciers différents. Le Grand Ouest est plutôt attractif, le Nord-Est beaucoup moins, ouais. Et un certain nombre de ces
comme
territoires
ça, on a une
sont
bonne
sous pression.
Sur voilà. Différents territoires.
Pression à Épernay, c'est le territoire de Champagne, classé UNESCO, donc il y a un problème de foncier disponible. La Draguignan, c'est la pression touristique. Voilà. Et donc l'idée, c'est qu'ils sont confrontés à des sujets fonciers un peu différents. Donc à partir de ces 7 agglomérations qui ont identifié du foncier invisible, on passe à la phase opérationnelle avec 3 sites démonstrateurs par agglomération, centre-ville ou centre-bourg, et on fait la démonstration de la faisabilité opérationnelle d'un projet. Et donc à la fin, on a une 20aine de sites démonstrateurs et l'idée, c'est de monter en généralité à partir de ces typologies, voilà, pour dire dans des situations relativement variées, même si on est parti de 7 villes sur 35 000 communes françaises, on arrive à donner quand même, peut-être pas un mode d'emploi, mais au moins une illustration de ce à quoi il faut se préparer pour l'avenir. Je termine juste sur ce point. Il y a 5 nouvelles agglomérations qui se sont associées au programme depuis 2022. Le PUCA va passer la main au CEREMA qui va reprendre l'accompagnement de ces 5 agglomérations. Donc ça couvre aujourd'hui 12 régions françaises. Et l'idée pour Action Cœur de Ville, deuxième phase. C'est de faire de la sobriété foncière un peu le fil rouge finalement des programmes d'aménagement. C'est accompagné par la Banque des Territoires et Action Logement qui ont eux-mêmes un peu éco-conditionné leurs aides à cette logique de sobriété. Et donc on a été un peu précurseur, mais finalement ça va se diffuser très largement.
Eh bien, merci beaucoup, oui. Hélène. Un petit mot, oui, François.
Oui, juste un mot. C'est effectivement là, nous avons le grand intérêt de l'expérimentation qui ouvre des portes, et des portes sur des produits, des collectivités de typologies différentes et puis des façons de faire. Nous, c'est vrai qu'au niveau syndical, nous représentons les professionnels qui produisent le foncier pour les 400 et quelques mille logements dont nos Français, nos concitoyens ont besoin. Et donc, on est quand même très centré sur la capacité à produire et à loger en nombre nos concitoyens. Donc, on est attentif à ce que toutes ces innovations puissent percoler après sur des modes de travailler qui seront équilibrés au niveau économique et qui permettront aux citoyens de réaliser leurs désirs et leurs besoins. Voilà, je voulais juste réintroduire cette notion quantitative, industrielle en quelque sorte, puisque vous savez que la ville sur la ville, c'est 45% des logements, un peu moins de 200 000 logements par an, et que la ville par extension ou par réappropriation de sites anciens, c'est 250 000. Donc vous voyez un petit peu la pression et la responsabilité que nous avons ensemble.
Peut-être merci. Là-dessus, juste vous donner trois exemples très concrets qui sont issus de cette expérimentation, qui peuvent être répliqués, en tout cas on espère qu'ils le seront. Un exemple d'extension urbaine, justement, on a beaucoup hésité à le garder ou pas dans un démonstrateur. Il est à Louviers, c'était une ancienne ferme qui était au PLU déjà inscrite comme site à urbaniser. Le dispositif a permis de repenser complètement la densité du projet et finalement de limiter à peu près un tiers de la parcelle qui était envisagée l'extension urbaine. Donc il y aura quand même un projet d'extension urbaine. Mais il a été vraiment pensé différemment. Donc cette logique d'éviter, réduire, compenser, voilà, elle s'inscrit assez fortement dans la discussion collective. Et par ailleurs, compenser, en fait, la collectivité assume de renaturer un autre site sur son territoire d'agglomération pour compenser. Et donc, on est quand même déjà dans un changement de paradigme, même si on vient vers l'extension et la construction neuve. Un autre exemple, Dreux, que vous avez à l'écran d'ailleurs. Dans les sites démonstrateurs, on a retenu un site à côté de la gare, qui n'est pas le grand élément du grand projet urbain à côté de la gare, qui lui sera préservé pour plus tard. Mais un site de cité-jardin des années 20 qui se trouve, et donc encore propriété, en tout cas en grande partie, du bailleur HLM, et qui se retrouve classé F ou G au diagnostic de performance énergétique. Donc on est là, c'est un opérateur qui a une trentaine de maisons qui vont sortir du parc locatif. Et donc la question qui a été soulevée, ce n'est pas comment rénover chaque maison, mais bien comment faire de ce site un projet urbain, à la fois en travaillant sur l'existant et éventuellement en densifiant un peu le quartier autour de ce patrimoine qui est la Cité Jardin, qui en plus a plutôt du cachet. Et donc voilà comment un opérateur HLM devient un des acteurs de la sobriété foncière sur ce site.
Eh bien, merci infiniment Hélène Peskin pour cette intervention, parce que ce n'était pas évident avec votre voix. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes secrétaire permanente du PUCA, le plan urbanisme, construction, architecture au ministère de la Transition écologique. Et merci François.
Le Forum de l'aménagement durable en partenariat avec l'UNAM sur Radio Immo et Radio Territoria.